La cuisine que vous allez suivre est une rediffusion.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, une émission spéciale consacrée à Romy Schneider à l'occasion de la grande exposition qui lui est consacrée à la Cinémathèque française à Paris. Romy Schneider, disparue en mai 1982, il y a presque 40 ans, actrice à la carrière exceptionnelle. Elle a tourné une soixantaine de films qui couvrent tout le spectre du cinéma, des films populaires comme Le Vieux Fusil ou La Banquière, aux collaborations de prestige avec Lozé, Preminger, Orson Welles, jusqu'au compagnonnage amical et cinématographique avec Visconti ou encore Claude Sauté. Femme passionnée, intense, généreuse et colérique, Romy est tout en zigzag, disait d'elle Michel Piccoli. Bonjour Clémentine de Roudy.
Bonjour.
Vous êtes la commissaire de l'exposition et pour l'affiche, vous avez choisi une Romy très chic, triple rang de perles, petit calot noir, sourire timide et œil de biche. C'est l'image même du raffinement et de la séduction. Et pourtant, son regard plane entre rêve et mélancolie ailleurs. C'est comme ça que vous la voyez ?
Je n'ai pas choisi l'affiche. Mais personnellement, j'aurais choisi une autre image.
Notre Romy.
Une autre Romy.
Votre
j'aurais
Romy
choisi
avoucée.
Même une Romy plus cinématographique. Et en même temps, je comprends complètement aussi le choix, et je le revendique, hein, enfin, de la Cinémathèque, qui était de montrer aussi une image, exactement ce que vous dites, c'est-à-dire un regard très prégnant, quelqu'un qui nous fait rêver, aussi une beauté, et puis quelque chose aussi qui est presque intemporel. On ne sait plus de... Elle sort comme une espèce d'image fantasmagorique, quoi. Et c'est un peu ça quand même aussi Romy Schneider.
Vous, votre Romy, elle est tout en zigzag. Vous la voyez comme Piccoli.
Ouais, moi, ma Romy est tout en zigzag. Elle est très moderne et elle te regarde vraiment frontalement dans les yeux et de façon presque, oui, comme un peu plus autoritaire et un peu plus affirmée.
Au coin, restez tranquille et laissez Xavier boire son lait.
Que tu lui apportes, hein.
Bonjour, Papilly. Oh, mais elle est pas tranquille avec ses trois ours.
Tu deviens une très bonne cavalière. Tu as très bien sauté tout à l'heure. Ça te ferait plaisir que je t'emmène à la chasse.
Qu'y a-t-il ? Papilly m'emmène avec lui à la chasse.
Alors, maman, que dit tante Sophie ? Elle demande que je t'emmène passer quelques jours à Ischel auprès d'elle, car elle veut que... Mon Dieu, si je m'attendais à une chose pareille. Que veut-elle ? Que tu deviennes impératrice d'Autriche. Quoi ? Oui, je suis si heureuse et si fière. François-Joseph est jeune, puissant, riche et charmant, comme tu as de la chance. Une chance que demain le monde t'enviera.
Romy Schneider, il y a une période qui a été votre première période, c'était l'impératrice Sissi, vous aviez 17 ans.
Ah, c'est le passé aussi.
Est-ce que c'était une étiquette dont vous avez souffert ou est-ce que vous êtes
content ? Oui, à partir d'un certain moment, oui, absolument, parce que on ne voulait pas m'en sortir. Moi, oui, mais c'était difficile, mais j'ai quand même réussi, finalement.
Ça s'accrochait à votre peau ?
Oui, un peu. J'en ai fait trois et j'en voulais plus. Je voulais déjà plus faire le deuxième, mais je ne regrette pas.
Et à ce moment-là, toute l'Autriche...
Non, on a marre à partir d'un certain moment de jouer toujours la même chose.
Vous n'aimez pas les séries ?
Non, du tout.
Et à ce moment-là, toute l'Autriche voulait vous protéger. Vous étiez un peu l'enfant chéri de là-bas.
Et oui,
on ne vous a pas pardonné, d'ailleurs, d'être parti.
Ah non, non, non. Ils n'aimaient pas tellement ça.
Aujourd'hui encore ?
Non. Moi, je suis retournée là-bas, pas en Autriche, mais en Allemagne. J'ai ma vie là-bas. Mais je ne travaille pas là-bas. Je travaille ici.
Vous avez besoin d'être dirigée, protégée, aimée ?
Qui pas ?
Et plus précisément vous, peut-être, non ?
Oh. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça.
Non, je vous pose la question.
Alors, je vous pose la question, pourquoi vous me posez cette question?
Parce que j'ai l'impression que vous êtes fragile au départ.
Peut-être.
Très organisée, mais avec des apparences fragiles. Dans le fond, c'est peut-être un jeu.
Ah non, j'aime pas les jeux.
Mais si, si, pour vous, c'était quoi? C'était simplement un départ?
Ah, c'était quand même la chance, c'était une énorme chance.
C'était 17 ans.
Oui, je faisais le premier, j'avais 17 ans, c'est juste, 17, 18, 19. Et que ce sorti de l'Allemagne et de l'Autriche, ces trois films, c'était beaucoup de chance pour moi. Quand je suis arrivée la première fois en France, je ne savais pas dire un mot en français. J'ai vu des grandes affiches partout, Sissi est mon nom, je ne croyais pas mes yeux, c'était formidable. Et je pensais toujours, justement, en France, on va détester ce genre de film.
Ça a été un succès.
Oui, c'était un énorme succès, oui, partout en Europe. C'est très bien, ça m'a beaucoup aidée. Après, c'était difficile parce que... on voulait toujours que je continue la même chose.
Romy Schneider, sur le grill de Jacques Chancel dans les années 70, hein, le dit Sissi, à la fois une énorme chance et un énorme fardeau. C'est quoi ce fardeau? C'était quoi ce fardeau pour elle?
Alors ce fardeau, il est encore plus complexe même que celui qu'on peut imaginer, c'est-à-dire cette espèce d'énorme succès, cette tarte à la crème, cette meringue qu'elle arrive absolument pas à enlever, et puis tout le monde voilà projette sur elle cette image de jolie fiancée, mais de l'Allemagne. On est dans les années 50, au début des années 50, et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que je crois qu'aussi la très grande intelligence, hypersensibilité de Romy Schneider, c'est tout d'un coup de se dire, mais en fait, ces films-là ont aussi permis de nettoyer un passé récent absolument atroce et donc tout d'un coup de glorifier un autre passé pour faire oublier l'histoire récente. Il est vrai que ça, c'est l'histoire de Romy Schneider et c'est l'histoire de beaucoup d'Allemands. Surtout que ses parents étaient très, très célèbres. C'est ça aussi qu'on oublie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, Romy Schneider, elle vient d'une famille de saltimbanques. Elle vient d'une famille de très grands acteurs.
Voilà, c'est pas que des saltimbanques. C'est des superstars. Enfin, tout le monde les connaît. C'est des valeurs nationales.
Exactement, exactement. Et donc, quand tu représentes une forme d'image comme ça d'un pays, etc., bah, le pouvoir en place a envie de te mettre dans sa poche. Le pouvoir en place, c'est l'atroce période nazie, c'est Hitler. Donc, effectivement, il y a tout ça. Et voilà, et donc, c'est Sissi. Il ne s'attendait pas à ce succès absolument exceptionnel, extraordinaire de ces films, fait qu'effectivement, ça change l'histoire de Romy Schneider, ça change l'histoire de sa famille, de Magda, parce que Magda, sa mère, tourne dans les films, et aussi l'image du cinéma allemand. Et ça, c'est incroyable.
Et elle, en fait, à ce moment-là, donc en 55, au tout début de la trilogie, bon, elle est un peu connue. Elle a déjà joué, ouais, grâce à sa mère, ouais, des ingénues. Ouais. Mais justement, Sissi va la projeter dans une autre dimension. C'est-à-dire, c'est plus un film, c'est un... Est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène de société?
Complètement, complètement. Mais c'est Michael Jackson quand il est apparu avec Thriller, ou c'est Madonna. Non, mais c'est vraiment un phénomène de société. C'est-à-dire quelqu'un, on n'avait pratiquement jamais connu ça au cinéma. C'est-à-dire qu'elle devient la carte postale idéale de ce pays. Elle devient la fiancée. Elle devient... Mais pas simplement de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre. Et même, elle va jusqu'aux États-Unis. Walt Disney la repère, elle va passer des essais. Enfin, et puis elle ne peut plus jamais sortir seule. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est traqué.
C'est Brigitte Bardot à 17 ans, quoi.
C'est Brigitte Bardot en étant très jeune et en ayant aussi une image. Brigitte Bardot, elle a eu très vite une image assez sulfureuse, très sexy, etc. Elle, c'est... en plus, elle doit projeter une image de perfection de cette petite fille modèle.
C'est
qu'elle
ça,
n'est
parce
pas
que...
du tout.
Parce qu'il faut peut-être le rappeler, je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent Sissi, logiquement oui, parce qu'il y a eu tellement de diffusion, mais c'est quand même l'histoire d'une... C'est un conte de fées auprès d'une figure historique qui va devenir reine, Élisabeth d'Autriche, qui deviendra reine au XIXe siècle. Donc c'est des belles robes, des bals...
Et des crinolines infinies. I'm driving your car with you, sleeping in the seat next to me, like a baby. And you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket, a love machine, a cinematic dream, so pure that it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me, to me. Et Pomme, c'est le choix musical de notre réalisatrice Fanny Renard. Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invitée Clémentine Deroudy, commissaire de l'exposition Romy Schneider à la Cinémathèque française. Alors on le disait tout à l'heure, Clémentine, c'est vrai que les débuts de Romy Schneider, ce n'est pas vraiment des chefs-d'œuvre. Et il y a un film qui est beaucoup moins connu que Sissi, dont on parle peu, mais qui va pourtant faire basculer sa carrière. C'est un mélo tout en minauderie et en dentelle. C'est Christine.
Ah, Christine.
Racontez-nous.
Romy Schneider est très, très, très puissante. Elle est toute jeune, mais très puissante. Et donc, les producteurs peuvent monter des films sur vraiment son nom. Et donc, c'est une coproduction franco-allemande. Elle doit choisir son partenaire. Et puis, elle a un espèce de catalogue comme ça de différents hommes qu'elle doit choisir. Et puis, son regard est attiré par un jeune homme qui démarre sa carrière. Et puis c'est Alain Delon. En même temps, franchement, qui n'aurait pas été attiré par Alain Delon. Et elle recommence tout par amour pour Alain Delon. Et là, tout va s'effondrer pour elle et elle va tout recommencer à zéro. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. C'est très romanesque. Mais je crois aussi que la rencontre entre Alain Delon et Romy Schneider, c'est ça, c'est deux êtres profondément romanesques qui se rencontrent. Et voilà, et puis c'est reparti vers un ailleurs totalement différent.
Et un ailleurs totalement différent avec des grands noms du cinéma, puisque désormais, sa carrière s'internationalise, vous le disiez, Clémentine, avec Preminger, Orson Welles. Elle tourne aussi en France, le premier film d'un jeune homme, Alain Cavalier, Le combat dans l'île, où elle est l'épouse délaissée encore de Jean-Louis Trintignant qui lui donne baffe sur baffe. Et puis surtout, un film maudit qui occupe une grande partie de l'exposition. C'est L'Enfer de Clouzot. Donc en 64, vous écrivez, Clémentine Deroudy, elle est la seule à échapper au courroux du réalisateur et à le suivre dans ses folles expérimentations formelles. Il faut dire que Jean-Louis Trintignant, lui, a quitté le plateau.
Serge Reggiani a quitté le plateau. Non, parce qu'on présente toujours Romy Schneider comme un être fragile. Moi, je crois qu'elle est tout sauf fragile, Romy Schneider.
Elle a un côté, elle n'est pas réalisatrice, mais oui. Elle a un côté co-créatrice d'un
film. Totalement. Et donc, Clouzot, c'est quand même un des grands réalisateurs de son époque, donc elle ne veut pas passer à côté, que lui est dans une espèce de folie totale, d'expérimentation, d'essayer des choses nouvelles, etc. Et donc elle se laisse vraiment, ce qu'on voit avec les rushs qui ont été récupérés et découverts, et elle se laisse faire, et ça aussi les réalisateurs adorent ça chez elle, parce qu'effectivement elle se donne entièrement, et c'est très épuisant, parce que Clouzot est devenu totalement fou sur ce tournage, et effectivement ça se termine par la crise cardiaque, mais entre-temps, Reggiani est parti, et Trintignant qui est venu le seconder, enfin jouer le propre rôle de Reggiani, est parti aussi. Enfin, c'est-à-dire que tous les mecs se tirent et Romy Schneider, elle reste, enfin elle est incroyable pour ça. Voilà. Et ça, je trouve que c'est passionnant, cette façon qu'elle a comme ça de travailler avec les réalisateurs. Et c'est ce qui va amener sa rencontre, quand vous parlez de cette espèce de co-réalisation, c'est l'absolu avec Claude Sautet, quoi.
Et puis arrive 68, et là, changement de ton. C'est parti pour un face-à-face entre Romy Schneider et Alain Delon devant une Jane Birkin plus boudeuse que jamais.
Je vais me coucher. Bonsoir.
Quand vous m'allez voir, si elle a besoin de rien, je reviens tout de suite.
Tu es libre, tu sais. Entièrement libre.
Pourquoi me dis-tu ça?
Tu le sais très bien. Ne te crois pas obligé de me tenir compagnie. Si tu veux monter, ne te gêne pas.
Non, non, ça va.
C'est ma faute.
Peut-être.
Tu es poisson ascendant Verseau. Tu es fait pour être aimé. Tu te rends pas compte.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Rien. Va la voir si tu veux. Ne reste pas ici. Après tout, elle part demain.
Moi aussi, je vais partir. Demain ou après-demain. Ça me dit plus rien, là, c'est ici.
La piscine de Jacques de Ray, 68, un quatuor amoureux. Alain Delon regarde Jane Birkin, on l'entend hein, dans cet extrait, qui regarde Maurice René, qui regarde Romy Schneider. Il y a toute une histoire autour de ce film, Clémentine de Roudy, qui est une histoire d'amour, mais surtout une histoire d'amitié, voire de loyauté entre Delon et Schneider.
C'est vraiment les films d'une époque, quoi. En fait, en 64, Alain Delon quitte Romy Schneider. Romy Schneider vit aux États-Unis à ce moment-là. Elle rentre en France, elle va tourner L'Enfer de Clouzot. Et puis, elle part, comme à chaque fois qu'elle elle recommence. Donc, elle va s'installer à Berlin, elle veut faire du théâtre. Elle rencontre son futur époux, Harry Mayen, qui est un metteur en scène de théâtre. Ils ne feront pas de théâtre ensemble. Elle continue à tourner. Puis elle s'arrête parce qu'elle a son fils, David, en décembre 66. Et à ce moment-là, quelques mois plus tard, Alain Delon l'appelle en lui disant, voilà, Alain Delon est devenu Alain Delon, quoi.
Et elle, c'est l'inverse. Sa carrière est au plus bas.
Pareil, moi, je mettrais encore quelques... Sa carrière n'est pas au plus bas. Elle fait une pause, elle recommence et elle allaite David. Mais effectivement, elle s'est un peu arrêtée. Et là, Alain Delon est tellement puissant qu'il monte ses films. C'est-à-dire avec Jacques Doré, ils sont très proches. Et puis voilà, puis lui, il a toutes les productions possibles, etc. Et donc, il a donc... passer une espèce de deal avec les producteurs et les réalisateurs en disant « Moi, si je fais le film, il faut que ce soit Romy Schneider. » Pourtant, ils sont allés chercher les plus grandes actrices américaines et tout ça. Il dit « Non, c'est Romy. » Et donc, Romy Schneider est évidemment hyper flattée que Alain Delon l'appelle et lui propose le rôle. Après, il faut aussi quand même démystifier. Ils avaient continué à se parler. Hein. Enfin, je ne sais pas, ils n'avaient pas eu 4 ans de
silence. Ils n'ont pas renoué juste pour ça.
Non, ça aurait été très beau, très romanesque, mais quand même pas. Voilà, et là, Romy Schneider se met à se préparer physiquement pour ce rôle comme elle fait pour chaque rôle. Et surtout, c'est magnifique parce qu'ils vont tous se retrouver dans cette villa. Le tournage a été assez incertain parce qu'on est en juillet 68. Donc, les routes sont bloquées, etc. Et donc,
ils vont être Ramatuel sur la Côte d'Azur dans leur petite bulle.
Exactement, et c'est une espèce de magie absolue. Il y a Brigitte Bardot qui habite à côté, donc ils vont passer des soirées chez Brigitte Bardot. Elle vient avec Harry et David. Alain Delon commence son histoire d'amour avec Mireille Darc. Jane Birkin vient de rencontrer Gainsbourg, donc Gainsbourg débarque. Enfin non, mais c'est inouï en fait. Ce film, ce tournage est inouï. Scénario écrit par Jean-Claude Carrière. Enfin, c'est absolument magnifique. T'as l'impression qu'il y a tous les ingrédients du cinéma, Hollywood. Enfin, je sais pas, il y a un truc très, très magique. Et évidemment, personne ne s'attend au succès immense de La Piscine. Mais ce film correspond. La sexualité, je dis plus que la sensualité, il y a vraiment de la sexualité qui correspond complètement à l'époque, quoi. Et donc, et tout d'un coup, Romy Schneider propose encore une nouvelle fois une facette totalement autre de son talent. Et elle invente aussi quelque chose au cinéma qui appartenait peut-être un peu plus à Brigitte Bardot. Mais tout d'un coup, elle va sur ce terrain. Elle est sublimissime quoi, dans le film.
Et c'est donc le redémarrage hein, de sa carrière. Et on a l'impression que La Piscine, mais encore aujourd'hui, reste le film, si mis à part, reste le film pour lequel elle est connue dans le monde entier. Et surtout dans le monde anglo-saxon.
Certainement. Oui, vous avez raison. La Piscine est un film qui a eu un impact à l'étranger absolument énorme. Mais parce que ça correspond, nous, l'image des Français, libérés, les femmes. Non, mais c'est vrai.
On a quand même... Ah oui, c'est le côté un peu oulala du film, c'est ça ouais.
Mais bien sûr, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire. Mais en tout cas, on y est en plein dedans. Et donc, tout d'un coup, elle est quand même en maillot de bain à peu près les trois quarts du film. Et puis, elle est très belle en maillot de bain. Et puis, Alain Delon est absolument sublime aussi en maillot de bain. Enfin, et, non, mais, et Maurice Renaud aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a cette espèce d'image de la France et des Français, et de cette liberté sexuelle, et de voilà qui fait que oui, c'est une image qui nous colle et qui est assez jolie et qui voyage beaucoup à travers le monde.
Alors en 70, Romy Schneider a été la petite fiancée de l'Autriche et de l'Allemagne. Elle a tourné avec de grands cinéastes. Elle s'est trouvée un mentor en la personne de Visconti, un alter ego devant et derrière l'écran avec Alain Delon. Et pourtant, il lui manque quelque chose qu'elle va trouver avec Claude Sauté.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je te regarde.
Normal, madame, normal. Dis-moi, quel est le mot pour... en français, pour mentir ? Enfin, pas mentir, raconter des histoires.
Affabuler.
C'est ça. Affabuler. Affabuler.
Deux F.
Oh, Herrgott, normal. Tu m'aimes.
Parce que tu es vieille et laide.
Les choses de la vie de Claude Sauté, la musique mythique, hein, bien sûr, de Philippe Sard. Donc Claude Sauté, c'est une rencontre vraiment décisive pour Romy Schneider. Voilà, elle fera 5 films avec lui entre 70 et 78. Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, une histoire simple. Et vous écrivez, Claude Sauté et Romy Schneider inventent la femme moderne au cinéma.
Ouais, carrément.
Rien que ça.
Oui, parce qu'à travers les 5 rôles qu'elle interprète chez Claude Sauté, dont la plupart d'ailleurs n'étaient pas écrits pour elle, les choses de la vie, c'était Annie Girardot peut-être qui était envisagée, César et Rosalie, c'était Catherine Deneuve, Max et les Ferrailleurs, elle joue une prostituée, c'est vraiment elle qui a demandé à Claude Sauté de développer ce personnage, enfin voilà, montrer à quel point elle participe, et à quel point, à chaque fois je dis, elle va chercher les rôles avec les dents, mais c'est vraiment ça, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Tiens, elle va tout faire. Et donc, à travers toutes ces femmes, c'est effectivement une femme incroyablement moderne. Et d'ailleurs, c'est aussi, je crois, pour ça que Rosalie, par exemple, reste toujours autant actuelle et toujours autant adorée, même si on fête ses 50 ans cette année. Mais c'est incroyable comme Rosalie, en fait. Et puis après, dans une histoire simple, Lily, qui est une personnage qui avorte, en fait, la première scène d'une histoire simple, c'est une scène d'avortement. Et cette femme vit seule et cette femme choisit ses hommes, dans tous les films de Sauté. C'est une femme amoureuse qui n'a pas peur de ses sentiments. C'est une femme qui décide de sa vie. Et ça, on est en 70. Alors aujourd'hui, ça nous semble presque naturel, mais on a beaucoup, beaucoup gagné ces dernières années, parce qu'en fait, dans ces années-là, en fait, ça n'allait pas du tout. Et donc, c'est aussi, je crois, le succès des films de Sauté, ils sont liés aussi à ça. Tout d'un coup, il va inventer, il va développer, il va construire avec Romy Schneider un personnage de femme, et elle s'effacera complètement, on ne l'entendra pratiquement plus dans les interviews, elle déteste dans les interviews.
Nous, on l'entendait d'ailleurs hein, tout à l'heure, ouais. Et les soupirs quand elle répond à chaque chancel. Ouais. Vraiment, elle n'aime pas ça.
Elle n'aime pas ça. Et en fait, ce qu'elle veut dire, elle le dit à travers les rôles qu'elle défend et qu'elle joue. Vraiment, tout le temps. Et ça, elle l'invente presque aussi ça avec Claude Sautet. Et pour moi, c'est l'invention de la femme moderne parce que aussi, les films qu'on regarde et les personnages qu'on découvre au cinéma nous influencent aussi dans notre manière de vivre. C'est ça aussi qu'on aime dans le cinéma. Enfin, voilà. Donc, merci Rosalie et merci Claude Sautet et merci Romy Schneider. Ouais.
Et ce qui est génial dans l'exposition, c'est qu'on voit, on a les télégrammes qu'elle envoyait à Claude Sautet. Visiblement, elle faisait ça avec beaucoup de réalisateurs, c'est ça ?
Avec tous ses réalisateurs.
Donc, elle envoie, elle lit un scénario, elle envoie un télégramme, donc ce qui se faisait à l'époque, évidemment, ouais. Il n'y avait pas Internet, hein, donc éventuellement avec des fautes de frappe, mais tout de suite, il faut qu'elle aille...
Elle a une espèce d'enthousiasme. En fait, moi, il était très important dans l'exposition de montrer à quel point elle était débordante de vie. En fait, c'était quelqu'un de profondément vivant, en fait, Romy Schneider. Et donc, elle avait une espèce d'enthousiasme, mais surtout qu'elle savait que c'était jamais gagné avec Claude Sautet. Et que là, par exemple, c'est César et Rosalie, et elle sait très bien que Rosalie, c'est Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est enceinte de Chiara et donc elle ne répond plus. Et donc, il est hyper emmerdé, Claude Sautet. Et il envoie un message à Romy Schneider qui est en tournage avec Joseph Losey et Alain Delon au Mexique. Et elle répond, et j'adore ce télégramme. Bon, je sais, hein. Je sais que je ne suis pas ta Rosalie. Mais bon, je serai ta Rosalie. Mais tu vois, en disant, OK, je ne suis pas dupe, mais je vais être à fond. Et à ce moment-là, elle commence à écrire tous les mots qu'elle lui envoie. Rosalie. Il y a dans les mots qu'elle envoie dans Max et les Ferrailleurs, un mot qui est génial sur une feuille de service où elle dit, elle écrit un mot au producteur et à son agent Jean-Louis Lévy, aussi personnage fondamental aussi dans la vie et la carrière de Romy Schneider, qu'elle n'ira pas au dîner de production parce que ni les techniciens ni les machinaux ne sont invités, donc elle viendra pas. Enfin voilà, il y a une espèce de chef scout aussi qui est assez drôle chez Romy Schneider, et puis d'une espèce de grand tempérament, quoi. Voilà.
Oui, justement, qui répond peut-être à celui de Sautet. C'est peut-être ça aussi le secret de leur entente, parce qu'ils sont assez
colériques
tous les deux, c'est ça. Soupolet.
Oui, soupolée, colérique, et surtout, en fait, elle disait toujours qu'en fait, elle avait besoin d'un regard exigeant. Elle est hyper exigeante pour elle et pour les autres, et qu'elle avait besoin de la même chose. Elle avait besoin d'une complicité totale. Et c'est vrai que Claude Sautet est quelqu'un qui va, j'allais dire, donner sa vie sur les plateaux. C'est pas vrai, c'est pas ça. Mais en tout cas, oui, il va s'emporter, il se met en colère. Il y a une scène canse dans une archive où on voit Michel Piccoli imiter la colère de Claude Sautet. C'est génial, c'est génial. Enfin, les colères de Claude Sautet sont mythiques dans le cinéma français. Et les colères de Romy Schneider aussi. Enfin, c'est quelqu'un. Et ça aussi, j'adore. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'affirme, quoi. Elle n'est pas d'accord, elle y va, elle gueule, ils échangent. Et que c'est aussi. Ça n'enlève en rien l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, qui est immense, et leur complicité. Mais quand elle n'est pas d'accord, elle le dit, lui aussi. Et c'est comme ça aussi qu'ils font des films absolument magnifiques, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'ambiance. Et que. Enfin, il y a aussi quelque chose qui me semble aussi essentiel chez Romy Schneider, c'est qu'elle a commencé, comme vous l'avez dit, à 15 ans. Et que la plupart de sa vie, elle l'a passé sur les plateaux de cinéma. Donc, sa famille, c'est le cinéma. Et les plateaux de cinéma, c'est sa famille, tous ces gens-là. Donc aussi, c'est l'endroit où elle est plus à l'aise, où elle est le plus libre.
Alors, dans les années 70, elle va en voir des plateaux de cinéma parce qu'elle tourne avec frénésie beaucoup de femmes fortes dans La Banquière de Francis Giraud. Comment dit-on ? Giraud ?
Ouais.
Oui, dans La Banquière de Francis Giraud ou La mort en direct de Bertrand Tavernier. Et puis ce film qui va lui valoir le César de la meilleure actrice, César bien mérité, comme on va l'entendre.
Allez, essaye, vas-y, 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 sens-le, sens-le, tu lui dis je t'aime. Encore, encore.
Je t'aime.
Encore, non ça va pas.
Mais je ne peux pas.
Mais si tu peux.
Non, je ne peux pas faire ça, mais c'est trop...
Allez. T'as un contrat, t'es payé pour
mais
ça.
Mais pas.
Tu fais ce qu'on te demande. Allez.
Mais.
Pas de mais, pas de commentaires. Allez, allez, vas-y. Voilà. Sens-le bien. Sens-le. Sens-le.
Bien. Bien.
Mais si de la vie, tu l'aimes. Allez, vas-y. Encore. Encore.
Bien.
Encore. Allez, allez. Allez.
Allez, tu l'aimes. Allez.
Je t'aime.
Encore. Encore.
Encore, vas-y.
L'important, c'est d'aimer d'Andrei Zulawski. Donc, Romy Schneider joue une actrice sur le déclin qu'un jeune photographe va tenter de sortir du trou. C'est un casting de folie. Clémentine de Rudy, Jacques Dutronc, Klaus Kinski, Roger Blin, Claude Dauphin. Et dans ce film, en fait, on l'entend, elle pousse tous les curseurs. Hein, hystérie, folie, dépression, autodestruction. C'est un peu comme si, à ce moment-là de sa vie, elle avait envie de se surpasser.
Oui, il y a quelque chose de magnifique chez Romy Schneider et en même temps de très dangereux, c'est-à-dire que cette quête d'absolu va lui amener à avoir de plus en plus de doutes, c'est-à-dire qu'elle va se douter d'elle-même, de toutes ses capacités de jouer, etc. La même chose avec la banquière, où tout d'un coup, elle se met à s'enfermer beaucoup dans sa caravane, à préparer ses rôles intensément, ça l'a toujours fait.
Et le fil rouge de tout ce qu'elle a tourné à la fin de sa vie, c'était ça, c'était toujours des femmes qui souffrent beaucoup, un peu comme si le cinéma français la voyait comme ça.
Alors moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai démarré l'exposition en ayant cette idée-là, et en fait, je me suis rendu compte que non, parce que moi, pour moi, c'est surtout des femmes qui se battent, en fait. La banquière, c'est une femme qui se bat. La patiente du Sanssouci, elle se bat, même si c'est tragique, évidemment, à la fin.
C'est tragique, après, et puis c'est presque un film... Enfin, il y a une sorte de prémonition très étrange, hein, ouais. Puisque elle va connaître bientôt le même drame que celui de son personnage, hein, la disparition de son fils.
Alors non, parce que en fait, c'est encore plus dramatique que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont commencé... En fait, alors déjà, dire que ce film, c'est elle qui l'a voulu. C'est-à-dire c'est elle qui a découvert ce roman de Kessel, c'est elle qui a trouvé le producteur. Et je trouve ça aussi pareil, cette espèce d'investissement.
Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, elle fait 5 films autour de la Seconde Guerre mondiale pour alerter et peut-être aussi nettoyer une certaine culpabilité de sa famille. Enfin bon, ça, on n'est pas psy. Mais en tout cas, elle monte ce film, ce projet qui a été arrêté une première fois puisqu'on lui découvre une tumeur au rein droit qu'elle fait enlever. Et puis quelques mois plus tard, son fils David va se tuer en escaladant un grillage chez ses grands-parents. C'est en juillet. C'est le drame absolu. Et donc, évidemment que le tournage est arrêté une nouvelle fois. Et Romy Schneider va se bagarrer pour reprendre le tournage. Les producteurs ne veulent plus de Romy Schneider. Pour la violence de ce milieu. Ils vont carrément demander à Anna Chigoula de reprendre le rôle. Anna Chigoula va refuser. Et Romy Schneider, grâce à Jean-Louis Lévy, grâce au producteur français, va réussir à terminer La Passante du Sanssouci. Dans des conditions, vous pouvez l'imaginer, de tension et d'émotion. Mais elle sera là, présente tous les jours sur le tournage. Et ce film est un film bouleversant puisque ce sera son dernier film. Elle va mourir quelques semaines après la sortie de La Passante du Sanssouci. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un film totalement dramatique, puisqu'en plus elle meurt dans le film. Donc oui, c'est incroyable ce film.
Et il y a quelques années, le Guardian titrait, donc le quotidien britannique qu'on connaît, titrait la réhabilitation de Romy Schneider.
Ah, je savais
pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a longtemps été oubliée avant de refaire surface dans les imaginaires, où il y a toujours eu...
Alors en France, elle a toujours été adorée. Hein.
En Allemagne, elle a été réhabilitée.
Complètement.
Si je puis
dire. Ça c'est vrai. En Allemagne, ça a été. Ils ne lui ont jamais pardonné d'avoir quitté l'Allemagne. Et pour un petit roturier français qui est Alain Delon, ils ont été très extrêmement durs avec elle, vraiment. Donc ça, c'est certain. Après, moi, je pense que surtout depuis ces dernières années, on avait image très mélodramatique, et moi j'avais vraiment envie et besoin de la remettre dans la vie, de montrer à quel point elle a inventé quelque chose au cinéma, vraiment elle a apporté une pierre à l'édifice de façon absolument remarquable, à quel point aussi elle n'a pas vieilli en fait, à quel point en fait aussi, alors je suis désolée mais il y a tellement peu de littérature, peu d'études sur les femmes, sur les actrices, sur la place de la femme au cinéma, enfin ça moi j'ai pas du tout abordé cette exposition avec ce point de vue, mais tu peux être ultra féministe en terminant une exposition sur Romy Schneider ou sur n'importe quelle actrice. Donc il est toujours plus préférable de montrer une actrice comme quelqu'un qui subit, qui est malheureux, qui est, enfin, c'est absolument incroyable. Je crois que c'est absolument pas le cas de Romy Schneider, voilà, et que faut laisser cette parole-là en fait surgir, et plutôt que de parler pour elle, on a beaucoup trop parlé pour elle. Et donc, c'est vrai qu'aussi, cette exposition permet de l'entendre et de se rendre compte qu'en fait, elle a vécu des drames incommensurables. Oui, elle a vécu sa vie de façon, peut-être parfois excessive, avec un romanesque absolument fou et un bonheur fou. Et vraiment, c'est un hymne au cinéma, cette femme, vraiment.
Ce soir, nous sommes septembre.
Merci Clémentine de Rodi.
Merci à vous.
Et restez avec nous pour fêter le journal du cinéma. Avant, on écoute Romy Schneider et Michel Piccoli. C'est la BO culte des choses de la vie.
Tu ne m'aimes plus. Là où un oiseau passe, quand
bien sûr, RFI, à l'écoute de tous les cinémas du monde. C'est le moment de feuilleter, Sophie, le journal du cinéma. Et d'abord, l'hommage à un grand monsieur, un comédien qualifié de monstre sacré, Michel Bouquet, dont on a appris la mort mercredi dernier à l'âge de 96 ans.
Et oui, il n'y en a pas tant que ça, hein, des monstres sacrés, finalement. Michel Bouquet, ouais. Peut-être, hein, préférer mourir sur scène comme son personnage fétiche de Ionesco, le roi Summer, une pièce qu'il aura jouée plus de 800 fois. En 75 ans de carrière, ce monstre sacré donc du théâtre a mis son talent au service des auteurs, des contemporains comme Samuel Beckett, Albert Camus ou Harold Pinter, mais aussi les classiques Diderot, Strindberg et surtout Molière. Joueur infatigable, perfectionniste, le comédien mène aussi de front une carrière au cinéma dans plus d'une centaine de films. Sa voix posée, son phrasé impeccable, son regard espiègle ou inquiétant. On fait merveille hein, dans des rôles de notables ambigus, secrets, voire dévoyés, hein, des films de Claude Chabrol. Il a aussi tourné sous la direction de François Truffaut, hein, notamment dans La mariée était en noir. Il a campé un inoubliable inspecteur Javert dans Les Misérables de Robert Hossein. Mais l'un de ses rôles au cinéma, hein, l'un de ses rôles les plus marquants reste celui de François Mitterrand dans Le promeneur du Champ de Mars.
Vous savez qui a pris l'initiative d'instaurer une journée de commémoration pour le Veldiv, la République française, en hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites. Qui a écrit ça? Le général de Gaulle?
Non, c'est vous, monsieur le président.
Qui a fait graver ce texte dans le marbre?
Robert Guédiguian, donc le réalisateur du Promeneur du Champ de Mars, expliquait en 2005 sur RFI pourquoi le président ne pouvait être que Michel Bouquet.
Bouquet a ce que j'appelle une théâtralité naturelle. C'est probablement ce qui l'a empêché de jouer beaucoup de chauffeurs routiers ou de patrons de bistrot. Sur scène, Bouquet a une aura. Ce qu'on pourrait appeler dans un film, pour incarner effectivement Mitterrand, une majesté en fait. Il y a toujours effectivement une distance, toujours quelque chose qui a à voir avec un léger décalage avec le réel. Ce prestige-là, cette essence-là de Mitterrand, je pense que seul Bouquet pouvait l'incarner.
Michel Bouquet, un acteur vraiment intense et qui a eu aussi à cœur de transmettre son art à des générations d'apprentis comédiens élèves du conservatoire.
L'État français rendra hommage à Michel Bouquet le 27 avril prochain aux Invalides. Cette musique reconnaissable entre toutes ces aquariums du Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Je vous entends jubiler, Sophie, je vous vois jubiler. On l'entend au début de chaque projection officielle du Festival de Cannes. Et ça y est, la planète revient sur son orbite. Le festival se tiendra bien en mai prochain. C'est un retour à la normale après 2 années de pandémie, d'annulation et de report.
Et oui, des grands noms, des nouveaux venus, du glamour et une dose de gravité eu égard à l'état du monde. Le Festival de Cannes retrouve ses marques pour sa 75e édition. Alors, qui succédera à Julie Ducournau, qui avait remporté l'an dernier la Palme d'Or pour Titane ? Eh bien, écoutez, on saura le 28 mai prochain, cette année. Sur les 18 films en lice pour la Palme d'Or, 4 sont signés par des réalisateurs déjà primés. Le japonais Hirokazu Koreeda, les belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, le roumain Christian Mungiu et le suédois Ruben Östlund. Mais le directeur artistique Thierry Frémaux fait aussi la part belle à de nouveaux réalisateurs sur la croisette. L'Égyptien Tarek Saleh ou l'Iranien Saed Roustaï, c'était celui qui avait signé le polar La Loi de Téhéran. Tous deux parlent de la situation de leur pays par le biais du film policier. Kirill Serebrennikov participera à la compétition pour la 3e fois avec un film, mais cette fois, le réalisateur russe qui est critique du régime de Poutine et qui vit désormais à Berlin pourra monter les marches du palais des festivals. Toujours sensible aux soubresauts de l'actualité, le festival accueillera aussi hors compétition 2 cinéastes ukrainiens, Sergei Losnitsa et Maxime Nakonechny.
Et on termine ce journal du cinéma Bobo Dioulasso. S'ouvriront bientôt les portes du ciné Gimby. Sophie, cette semaine, vous avez pu joindre son fondateur, Bernie Goldblatt, au téléphone.
Bernie Goldblatt, bonjour.
Bonjour Sophie.
On vous connaît réalisateur, producteur, mais aussi depuis des années infatigable promoteur d'un formidable projet, l'ouverture d'un cinéma, et d'ailleurs pas qu'un cinéma, vous allez nous en dire plus, au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso, donc le ciné Gimby. Où en est-on ? Parce que vous aviez lancé une souscription, vendu des sièges. Là on en est où ? Est-ce que vous savez à peu près à quelle période ouvrira la salle ?
Ok, bonjour Sophie, merci de me donner l'occasion de parler du ciné Gimby. En effet, ça fait quasiment 10 ans qu'on a engagé cette lutte. Je ne veux pas donner de date parce que je l'ai trop fait dans le passé et après on me taxe de menteur. Donc je vais dire que ça sera courant de l'été 2022, entre juin et octobre, à un moment donné quelque chose. Mais ça se saura quand même. Ça se saura rapidement. Et évidemment, on fera de la com autour de la fête d'ouverture du Gimby.
Et RFI relaiera bien évidemment Bernie Goldblatt. Il y a beaucoup d'attentes alors, j'imagine.
Oui, il y a énormément d'attentes. Évidemment, les voisins, les jeunes, les gens du quartier trépignent. Et évidemment, ils voient aussi au quotidien l'évolution du chantier. Là, on est vraiment aux finitions. On vient de commander le matériel DCP de projection pour la salle intérieure ainsi que pour la salle extérieure. On a les sièges qui sont sur la mer apparemment. Donc voilà, c'est imminent. Il manque encore la moquette qui doit venir d'Abidjan pour être installée. Voilà, donc on est vraiment dans la dernière ligne droite et on se réjouit d'accueillir tout le monde dans cette salle et qui renaîtra en fait, voilà, qui renaîtra.
Oui, parce que c'est la restauration d'un cinéma historique.
Exactement, et là, c'est un cinéma qui avait ouvert en 1956, fermé en 2005. Donc là, 2022, presque 20 ans plus tard, on rallume la lumière.
Mais alors, Bernie Goldblatt, sans attendre l'ouverture tant attendue donc, du ciné Gimby, vous menez des actions pour toujours promouvoir le cinéma et l'éducation à l'image.
Voilà, exactement. En fait, dès le début du projet, c'était évident qu'on voulait ouvrir plus qu'une salle de cinéma, sinon on n'allait pas faire ce projet. Et donc, on a organisé une résidence d'écriture documentaire récemment au mois de mars. Et là, on a aussi une super activité pour le mois prochain qui s'appelle Tigritude. Je pense que vous en avez entendu parler.
Oui, on en avait parlé dans l'émission. Ce cycle du Forum des images à Paris et qui retrace 30 ou 40 ans de cinéma panafricain.
Et donc, après la phase Paris au Forum des images, il y a la phase itinérance. Donc, c'est Bobo Dulasso qui a l'honneur de commencer avec le cycle des années 90. Ça sera au mois de mai, à partir du 10 mai, dans 10 quartiers et également dans le campus de Bobo Dulasso.
Et alors, est-ce que vous sentez que donc il y a de l'attente, mais qu'il y a aussi un appétit qui renaît ou qui était peut-être toujours là pour le cinéma, en tout cas à Bobo Dulasso et sans doute ailleurs au Burkina?
Oui, c'est évident. Là, on travaille sur la programmation des quelques premiers mois d'exploitation du Gimby et on a vraiment déjà beaucoup de propositions de films, il y a des gens qui nous contactent. À ce niveau-là, on n'a pas vraiment de soucis à se faire. Il y a beaucoup de films burkinabés, des films de Côte d'Ivoire, du Mali, qui se sont déjà positionnés parce que, voilà, une des ambitions aussi du Gimby, c'est d'être une salle de cinéma qui proposera beaucoup de contenu africain. Évidemment aussi des blockbusters et des films d'ailleurs, parce que tout le monde a droit à voir les films du monde. Mais pour nous, c'est important aussi que les films africains soient vus, parce que ce n'est souvent pas le cas. Et donc oui, les gens sont en attente. Vous savez, il y a quand même des salles qui sont en fonction à Ouaga et les gens à Bobo voient les bandes-annonces pour les films à la télé, pour les films qui passent à Ouaga, mais à Bobo, il n'y a vraiment rien, quoi. Donc, ça sera, c'est clair que c'est attendu. En plus, on aura une salle équipée en DCP, donc une super qualité.
Donc, c'est projecteur numérique.
Projecteur numérique, voilà. Et on aura aussi une salle extérieure au Gimby. Ça veut dire qu'on aura une salle de 250 places sur l'esplanade extérieure avec populaire, avec un cinéma qui s'entendra depuis l'extérieur, qui se mélangera avec le son de la rue, de la mosquée, des maquis et des gens. Et on aura une salle intérieure de 174 places. Donc, on aura la possibilité d'avoir des films en même temps, dedans et dehors.
Formidable. Eh bien, on a hâte et évidemment, on s'en fera l'écho. N'en doutez pas. Merci beaucoup, Bernie Goldblatt.
Merci, Sophie. Et je salue tout le monde qui nous soutient, qui nous ont soutenus. Et grand merci pour cette obstination interminable et combative. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci, RFI.
Et c'est donc au Burkina Faso que se termine cette émission. Merci Clémentine de Rodille.
Merci beaucoup.
Alors là, c'est à Paris, l'exposition dont vous êtes la commissaire, Romy Schneider, jusqu'au 31 juillet à la Cinémathèque française. Et puis on signale aussi aux auditeurs que Netflix programme en ce moment même plusieurs films de Romy Schneider, dont, et non pas des moindres, hein, dont La Piscine, Le Procès d'Orson Welles, Trois Sautés, Max et les Ferrailleurs, Les Choses de la Vie, César et Rosalie, sans oublier, pour les plus curieux, Christine, justement, de Pierre Gaspard VIII, son tout premier duo, donc, avec Alain Delon. Tous les cinémas du monde, c'est fini. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.
Tous les cinémas du monde, sur RFI. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré. RFI.